le magazine des Nations Unies.
C'est l'heure du magazine des Nations Unies. Bienvenue à tous. Bonjour. Voici les principaux titres. Intégrer l'agriculture familiale et le développement de l'agro-industrie pour améliorer la production agricole, c'est l'objectif du 8e forum régional qui vient de se tenir à Kinshasa. Ces travaux financés par le Fonds international de développement agricole ont reçu 300 participants venus d'Afrique de l'Ouest et du Centre, et ce sera notre actualité de la semaine. Fin de l'opération de rapatriement d'urgence des réfugiés congolais du camp Batalimo de la République centrafricaine. Plus de 6000 Congolais sont rentrés au bercail. Le dernier convoi de cette opération a eu lieu dimanche dernier dans la province de l'Équateur. Les détails dans la nouvelle de province. Et puis 15 millions de dollars américains du gouvernement canadien pour lutter contre l'impunité et les violences basées sur le genre dans les zones ciblées de l'Est de la RDC. Lancé mardi dernier à Kinshasa, ce projet est coordonné par le PNUD, son coordonnateur Abdoulaye Baldé est l'invité de ce dimanche.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Il s'est tenu du 13 au 16 mai le 8e forum régional sur l'agriculture familiale et le développement de l'agro-industrie. 300 personnes venues de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont participé à ces assises de 3 jours. Le thème de ces travaux, agriculture familiale et développement de l'agro-industrie, enjeux et perspectives. L'objectif était d'examiner les enseignements tirés des projets financés par le Fonds international de développement agricole, FIDA, dans la région. Les travaux ont porté notamment sur l'intégration entre l'agriculture familiale et l'agro-industrie visant à améliorer la production agricole et l'augmentation des revenus des paysans. Les détails avec Jean-Pierre Elali Coco.
D'abord, l'agriculture familiale. Elle englobe toutes les activités agricoles effectuées sous la gestion d'une famille. Elle utilise largement la main-d'œuvre familiale pour exécuter les diverses opérations culturelles. Quant à l'agro-industrie artisanale, elle représente 75% des entreprises agro-industrielles du continent africain. Et toujours selon le FIDA, l'agriculture représente 65% du nombre total d'emplois et 75% du commerce extérieur en Afrique de l'Ouest et du Centre. Ces chiffres montrent assez bien l'importance du secteur agricole dans le développement de la région. Et pour le ministre congolais de l'Agriculture, Jean-Chrysostome Vahamwiti, toute la stratégie agricole nationale doit se fonder sur l'intégration de l'agriculture familiale et l'agro-industrie.
Nous ne devons pas être un pays sans agro-industrie. Celle qui a existé dans l'ancien temps a disparu. Tout ce qui existait comme embryon d'agro-industrie a disparu. Nous devons donc refaire l'agro-industrie, car si on ne transforme pas les matières agricoles, elles n'ont pas de valeur réelle et elles périssent vite. Mais dans cette recherche de notre agro-industrie, nous ne devons pas ignorer la valeur de l'agriculture familiale. Il y a deux pays qui ne font le développement de leur agriculture que par l'agriculture familiale. L'agriculture familiale a l'avantage de permettre aux ménages de produire ce qu'ils doivent manger et de vendre l'excédent au marché. L'agro-industrie a l'avantage de nous permettre de résorber les déficits que nous avons dans les centres urbains et qui nous poussent à importer des produits alimentaires. Nous devons fonder la stratégie de largesse de notre agriculture sur les deux axes.
L'intégration de ces deux axes agricoles a fait recette avec beaucoup de réussite sous d'autres cieux dans d'autres pays de la région. Madame Racha Omar, représentante du FIDA en RDC.
Quand on regarde l'expérience d'un certain nombre des pays de l'Afrique de l'Ouest où il existe déjà des projets de ce genre, je pense essentiellement au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Sierra Leone et Liberia, au Nigeria, au Ghana, ce que les projets font, parce que c'est une politique du gouvernement, c'est d'encadrer les agriculteurs pour qu'ils augmentent leur productivité, génèrent des surplus, ils sont organisés et ils sont mis en relation directe avec des acteurs du marché, que ce soit des transformateurs, des grossistes ou des détaillants. Alors l'agro-industrie regroupe toutes les actions ou les activités de transformation du produit agricole, soit pour en faire un produit alimentaire, soit pour en faire une ressource pour d'autres activités industrielles.
Pour lier la théorie à la pratique, les officiels et quelques participants ont fait une descente sur le terrain. Ils ont visité quelques sites maraîchers de la ville de Kinshasa, dont Sekomaf. Pour rappel, la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre compte 23 pays et 58 projets agricoles financés par le FIDA.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
À l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de la Croix-Rouge célébrée le 8 mai dernier, le magazine des Nations Unies décrypte la Croix-Rouge, le Croissant Rouge, ses concepts et leurs emblèmes avec Baptiste Roll, coordonnateur de la coopération au Comité international de la Croix-Rouge. L'entretien est mené par Jean-Pierre Elali Coco.
Monsieur Baptiste Roll, bonjour.
Bonjour.
Le 8 mai dernier, la communauté internationale a célébré la Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence qu'il y a entre les deux concepts, c'est-à-dire la Croix-Rouge et la Croissant Rouge?
Alors, il s'agit de deux emblèmes évidemment graphiquement différents qui sont apparus historiquement à des dates aussi différentes, la Croix-Rouge un petit peu avant, le Croissant-Rouge un petit peu après. Cela étant, ce sont deux emblèmes qui jouissent de la même reconnaissance juridique au niveau international, qui doivent également jouir de la même protection et surtout qui ont la même signification aujourd'hui. Signification qui est double. D'une part, ce sont deux emblèmes qui permettent d'identifier certaines catégories de personnes, certaines catégories de biens protégés en tant que conflit armé. Deuxième signification, ce sont deux emblèmes que le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est autorisé à utiliser. Concrètement, chaque pays, chaque État a l'option de choisir de manière permanente l'un ou l'autre, la croix ou le croissant. Et de ce choix va dépendre l'existence d'une organisation nationale de Croix-Rouge ou de Croissant-Rouge dans le pays concerné. Typiquement, en RDC, nous avons la Société nationale de la Croix-Rouge de la RDC.
Donc, si je comprends bien, la différence est au niveau des emblèmes. Est-ce que Croissant-Rouge et Croix-Rouge, ce sont des institutions différentes ou c'est la même institution?
Ce sont en principe des institutions différentes. C'est-à-dire que dans chaque pays, vous avez une organisation nationale, soit de Croix-Rouge, soit de Croissant-Rouge. En RDC, vous avez la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo. Si vous prenez l'Algérie, vous avez le Croissant Rouge algérien. Toutes ces institutions nationales sont séparées, indépendantes les unes des autres, mais font évidemment partie du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge.
Alors parlons un tout petit peu de l'alliance qu'on peut établir entre la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et le Comité international de la Croix-Rouge et votre organisation.
Ce sont deux organisations différentes, séparées, indépendantes l'une de l'autre, mais évidemment qui font partie, comme les sociétés nationales de Croix-Rouge et Croissant-Rouge, du mouvement, donc de la même famille d'organisations. Au sein du mouvement, on trouve donc trois organisations. On a le Comité international de la Croix-Rouge, qui est basé à Genève et qui est en charge d'apporter assistance, protection aux personnes affectées par les conflits armés ou autres situations de violence. Vous avez les organisations nationales, donc les sociétés nationales de Croix-Rouge ou de Croissant-Rouge. Aujourd'hui, il y en a 189 à travers le monde, donc virtuellement une dans chaque pays. La fédération, qui est en fait les sociétés nationales qui se sont regroupées en une fédération, qui est un organisme à part, avec un secrétariat, là aussi, basé en Suisse, et qui est une institution à part, avec pour mandat de coordonner les efforts du mouvement dans les situations de catastrophe naturelle et de travailler au développement des sociétés nationales qui sont ses membres.
Sur le terrain, comment peut-on comprendre la relation ou même la coopération qui existe entre les CICR, votre organisation, et la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo, qui est une institution nationale?
Comme je vous l'ai dit, le CICR a pour mandat de travailler dans les zones de conflit, d'amener une assistance, une protection aux personnes affectées par ce type de crise. La Croix-Rouge de la RDC est présente sur tout le territoire national et essaye, dans toute la mesure de ses moyens, d'amener un soutien aux personnes vulnérables. Donc il y a toute une série d'activités que le CICR va mener de son côté, il y a toute une série d'activités de la même manière que la Croix-Rouge de la RDC va mener de son côté, et puis il y a, à la jointure des deux, certaines activités que nous allons mener ensemble, en partenariat, principalement en faveur des personnes affectées par les conflits de l'Est de la République démocratique du Congo. L'idée, donc, encore une fois, c'est de travailler ensemble dans nos opérations pour le bénéfice des personnes affectées et puis également, de notre côté, d'amener un soutien dans les domaines techniques où on a une expertise pour renforcer les capacités de la Croix-Rouge de la RDC.
À l'occasion de la journée internationale, il y avait un communiqué qui a été lancé par le CICR et là, on peut lire ceci. Chaque jour, la majeure partie des 7 milliards d'habitants de notre planète partage quelque chose avec la Croix-Rouge et les Croissants-Rouges, sans même en avoir conscience. Alors,
tout ça, comment expliquer ça?
L'idée de la campagne, qui va avec le 150e anniversaire du mouvement Croix-Rouge, Croissant-Rouge, c'est véritablement de rappeler ou de faire passer le message que tout un chacun, ou en tout cas une bonne partie des habitants de la planète, ont d'une manière ou d'une autre eu un contact, ont partagé quelque chose avec la Croix-Rouge, avec le Croissant-Rouge. Que ce soit sous la forme d'un secours ou d'une assistance qui aura été reçue de la part de la Croix-Rouge, que ce soit par un don que la personne aura fait à sa section locale de sa société nationale, que ce soit par une formation suivie, que ce soit dans une situation de conflit, de catastrophe naturelle ou autre.
Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu, très rapidement, de quelques principes de la Croix-Rouge?
La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge se sont donné 7 principes fondamentaux, que je mentionne rapidement, qui sont humanité, neutralité, impartialité, indépendance, volontariat, unité et universalité.
Il y en a combien, 7?
Il y en a 7. Je m'arrête peut-être sur 4 d'entre eux très rapidement.
Oui.
Peut-être le premier est le principe d'humanité, qui est celui qui fixe en quelque sorte l'objectif général du mouvement, qui est de prévenir et d'alléger les souffrances humaines, d'agir en faveur de la vie, de la santé des personnes, et qui est au cœur de toute notre action. 3 autres importants, je dirais, pour la manière d'agir de la Croix-Rouge. Je peux mentionner la neutralité, qui signifie que les composantes du mouvement Croix-Rouge, Croissant-Rouge s'abstiennent de prendre part à toute controverse, que ce soit de nature politique, de nature raciale, religieuse, idéologique, avec comme objectif de garder la confiance de tous. Le principe d'impartialité, qui veut que le mouvement ne fait aucune discrimination et offre un soutien sur la base des besoins identifiés et d'aucun autre critère. Et puis le principe d'indépendance, selon lequel les composantes du mouvement doivent pouvoir garder l'autonomie nécessaire pour agir en conformité avec leurs principes et ne pas se voir dicter leurs décisions ou leur prise de position.
Et j'ai vu tout à l'heure un plan d'action qui a été mené, même le rapport de ces plans d'action en 2013. Quelles sont vos réalisations en République démocratique du Congo, ne fût-ce que pour ces 2 dernières années, et quelles sont aussi vos relations avec le gouvernement congolais?
Le CICR est présent au Congo, en RDC, depuis 36 ans, donc ça fait une longue période durant laquelle, évidemment, on a eu l'occasion de nouer des relations, de mener des opérations avec les autorités, donc on a développé différents types de relations.
Je peux en savoir quelques-unes de ces relations, ou même à partir de quelles actions vous avez établi ces relations?
Pour ce qui est des réalisations, votre question précédente de ces 2 dernières années, comme je disais, la palette des activités qu'on mène ici est vraiment très large. Maintenant, quelques exemples qu'on peut donner. Pour 2013, par exemple, nous avons réussi à réunifier 1400 enfants qui étaient séparés de leur famille, principalement par les conflits, les déplacements à l'Est. Et ça, c'est typiquement une activité que le CICR mène conjointement avec la Croix-Rouge de la RDC. Si on regarde ce qu'on a fait depuis le début de cette année, ou de janvier à mars, nos équipes chirurgicales ont opéré 130 blessés de guerre entre Goma et entre le Nord Kivu et le Sud Kivu. 200 blessés de guerre ont également bénéficié d'un soutien en termes de réadaptation physique, que ce soit des cannes, que ce soit des prothèses. On peut mentionner très récemment la distribution d'articles de ménage essentiels qu'on a mené au nord-centre Katanga pour un peu plus de 16 000 personnes déplacées. Évidemment, également les questions de détention, qui fait vraiment une spécificité du CICR. Nous avons, pour les 3 premiers mois de cette année, visité 50 prisons en RDC. Nous apportons quotidiennement de la nourriture pour 3000 détenus.
Pour terminer, si ce n'est pas une discrétion, vous êtes une organisation qui existe presque depuis 150 ans. Quelles sont vos sources de financement?
Le gros du budget du CICR provient des États, plus Union européenne, ECO. Et puis on a également en développement, je pense, des partenariats avec le secteur privé. Un soutien parfois aussi de certaines sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. Mais puis des dons, des choses de ce type de la population ou des individus.
Monsieur Roll, merci.
Merci à vous.
Les nouvelles en bref à présent. L'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation, FAO, a mis en œuvre un projet pilote sur la filière manioc dans les provinces du Bas-Congo, Kinshasa et Bandundu. Le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural a lancé officiellement ce projet le 12 mai. Objectif, renforcer les capacités organisationnelles et techniques des communautés villageoises, des associations, des groupes de paysans et d'autres partenaires de la filière. Le projet vise également la création des centres incubateurs de micro-entreprises rurales pour un changement social progressif des producteurs et transformateur du manioc en potentiel entrepreneur de la filière manioc. Une délégation du ministère russe des Affaires étrangères a séjourné la semaine dernière à Goma, dans le Nord Kivu. Cette délégation a été conduite par le directeur adjoint du département d'Afrique de ce ministère. Elle a rencontré mardi, le jour de son arrivée, donc, le chef du bureau de la MONUSCO, Rey Virgilion Torres, avant d'aller au gouvernorat, où elle s'est entretenue le même jour avec le vice-gouverneur du Nord Kivu. Après Goma, la délégation s'est rendue à Bukavu, dans le sud Kivu voisin. Enfin, la Commission nationale pour les réfugiés, CNR, en collaboration avec le HCR, a rapatrié jeudi 15 sujets rwandais dans leur pays d'origine. Ces derniers ont rejoint le centre de transit de Nyagatare au Rwanda voisin en passant par la frontière Ruzizi. Ces réfugiés rwandais rapatriés proviennent du territoire de Calais au sud Kivu et du territoire de Masisi dans le nord Kivu. Gratien Mupenda, responsable de la CNR sud Kivu, a indiqué que 3 Rwandais en situation irrégulière ont été remis entre les mains de la DGM. Entre-temps, une vingtaine de réfugiés rwandais attendent leur rapatriement dans le centre de transit de Ndéléré. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Geneviève Inagossi, a lancé mercredi dernier à Kinshasa le programme conjoint de lutte contre l'impunité, d'appui aux victimes de violences basées sur le genre et d'autonomisation des femmes dans l'Est de la RDC. 4 agences des Nations Unies, dont le PNUD, sont impliquées dans ce programme financé par le gouvernement canadien à hauteur de 15 millions de dollars américains. Abdoulaye Bald est le coordonnateur de ce projet au PNUD. C'est lui notre invité. Il s'entretient avec Honoré Missenga Kalala. Suivez.
Monsieur Abdoulaye Balde, bonjour.
Bonjour.
Le programme de lutte contre l'impunité et d'appui aux victimes des violences basées sur le genre et d'autonomisation des femmes à l'est de la RDC vient d'être lancé. Est-ce que nous pouvons connaître les objectifs de ce programme d'une manière sommaire?
Bon, je crois que les objectifs de ce programme, c'est de réduire l'ampleur des violences sexuelles dans les provinces d'intervention et d'accompagner les victimes de ces violences sexuelles en termes de services. Et cet accompagnement-là sera un accompagnement holistique où l'ensemble des services seront pris en compte.
Il est de quelle durée?
C'est un programme de 5 ans qui va de 2013 à 2018 et pour un montant de 18 millions de dollars.
18 millions de dollars financés par qui?
Par la coopération canadienne qui avait déjà financé un premier programme et ce programme fait suite à ce programme-là et elle intervient dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et de la province orientale, notamment en Ituri.
Quelles sont les agences impliquées dans ce programme en dehors du PNUD?
Comme je l'ai dit tantôt, c'est un programme conjoint dont la coordination est assurée par le PNUD pour les agences et le ministère national du genre et de la famille. Les autres agences impliquées, c'est le FUNIAP, le Fonds des Nations Unies pour la population, le Bureau conjoint des droits de l'homme et l'UNESCO, qui ont chacun à gérer une composante dans ce programme-là. Au niveau du PNUD, nous avons une composante CIDD qui gère la composante autonomisation des femmes dans ce programme-là.
Oui, si je comprends bien, ce programme comprend d'une manière globale 3 axes. Il y a l'axe de lutte contre l'impunité, l'axe d'appui aux victimes et l'axe d'autonomisation. Commençons par le premier axe, lutte contre l'impunité. Quelles sont les différentes actions que vous allez mettre en place?
Bon, pour la lutte contre l'impunité, il s'agira d'appuyer les structures étatiques, notamment le ministère de la Justice, la police spéciale de protection de l'enfant et de la femme, pour tout ce qui est lutte contre les violences sexuelles, les enquêtes, le renforcement de capacités de des acteurs, le renforcement de capacités institutionnelles, afin de permettre aux structures étatiques de jouer pleinement le rôle dans la lutte contre les violences sexuelles. Donc nous avons, entre autres activités, nous avons prévu des formations d'officiers de police judiciaire, l'appui aux poursuites, nous avons prévu de mettre en place des cliniques juridiques, des bureaux de consultation gratuits. Et ces actions, c'est le PNUD et le BCNDH qui mettent en œuvre ces actions. Pour la formation, nous avons prévu le renforcement de capacité des magistrats dans ce domaine et l'impact de ce programme-là dans le traitement des dossiers relatifs aux violences sexuelles.
Et par rapport à l'appui aux victimes?
Pour l'appui aux victimes, il s'agira de développer des activités génératrices de revenus pour la partie autonomisation. En fait, c'est une composante du PNUD qui s'en occupe. Donc, on mettra en œuvre des activités à travers les structures étatiques, notamment les maisons de la femme, afin de permettre d'apporter un accompagnement à ces femmes pour faciliter leur réinsertion socio-économique.
Ce programme pense atteindre quel nombre de femmes?
Bon, en termes de normes, il faudra aller en profondeur dans les documents que nous avons distribués. Et l'objectif, il va pour 5 ans. Tout ce qu'on a mis en place, un dispositif pouvant accompagner la mise en œuvre, un plan de suivi global pour permettre de voir l'état d'avancement et d'exécution de ce programme. Nous avons également mis en place un plan de communication qui sera élaboré pour permettre de rendre beaucoup plus visible et de communiquer sur ce programme-là afin de partager toutes les informations et les résultats obtenus pendant tout le processus de mise en œuvre.
Monsieur Abdoulaye Baldé, comment expliquer l'absence de l'ONU Femmes dans ce programme?
En fait, je crois qu'au moment où on a commencé l'élaboration de ce programme, l'ONU Femmes venait à peine d'être installée, il y avait que 2 mois. Donc, ils sont absents au niveau de l'élaboration au départ, mais je crois qu'aujourd'hui, la dynamique dans laquelle nous engageons l'ONU Femmes a le lead sur la coordination. Donc, impérativement, l'ONU Femmes va être partie prenante dans ce programme-là. Et dans le cadre de la coordination, nous allons voir, à travers les actions qu'on va mettre en place et les différents mécanismes existants, comment l'ONU Femmes pourra intégrer la coordination de ce programme-là. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est de voir comment l'ONU Femmes pourra appuyer certaines composantes à partir de son expertise, d'autant plus que la dimension genre est mise en relief dans ce programme-là. Et ça, je crois que c'est dans le mandat de l'ONU Femmes. Donc, nous allons vraiment nous appuyer sur l'expertise de l'ONU Femmes pour voir dans quelle mesure ils pourront nous appuyer dans la mise en œuvre de ce programme-là. Donc, leur absence dans l'élaboration ne signifie pas qu'ils seront absents dans toute la mise en œuvre. Bien au contraire, je crois que c'est le moment de mettre toutes les synergies ensemble afin qu'on puisse produire des résultats au bénéfice de la population.
Monsieur Abdoulaye Baldé, dernière question. Vous êtes le coordonnateur du projet au niveau du PNUD. Est-ce que vous avez un vœu, vous avez des recommandations à faire pour la réussite de ce programme?
Bon, je crois qu'en termes de réussite, nous, tout ce qu'on peut dire, c'est que d'appeler d'abord les agences à améliorer leur collaboration et leur communication avec les structures gouvernementales, parce qu'avant tout, c'est un appui apporté au gouvernement de la RDC. Donc, c'est d'améliorer la communication, d'aller dans une concertation avec le gouvernement et que ensemble qu'on puisse construire et atteindre des résultats. Parce qu'on ne peut pas atteindre des résultats en dehors du gouvernement. On accompagne le gouvernement, donc on doit travailler côte à côte pour avancer dans ce programme-là. Et que aussi, la forte recommandation, c'est que la dimension holistique de ce programme-là, quand on intervient, on essaie de rendre un service global. Je crois que ça devrait être vraiment la valeur ajoutée de ce programme-là.
Monsieur Abdoulaye Baldé, merci.
Merci à vous.
Notre nouvelle en province à présent, l'opération de rapatriement d'urgence des réfugiés congolais en provenance du camp Batalimo de la RCA est terminée. Le dernier convoi de cette opération a eu lieu le dimanche dernier. Il a porté le nombre de ces réfugiés rapatriés à 6286. La plupart sont originaires du territoire de Libengue. Les détails avec Henri Lobondo Bokelou.
L'arrivée du dernier convoi qui marque la fin de l'opération du rapatriement d'urgence des réfugiés congolais du camp de Batalimo de la République centrafricaine a accosté au port de Batanga avec à son bord 35 personnes, ce qui porte à 6286 le nombre de personnes rapatriées sur les 6200 initialement annoncés, a déclaré Gert Van de Castellet, chef de bureau du HCR Équateur. De ces réfugiés, 95% des rapatriés sont originaires du territoire de Libengue. À en croire le chef de bureau du HCR Centrafrique, 3 Congolais parmi les réfugiés sont restés au camp de Batalimo. Ils refusent de rentrer chez eux. Le ministre provincial chargé de la sécurité et l'ordre public, Michel Liele-Waliele, qui représentait le gouvernement congolais à cette cérémonie, a félicité le HCR pour la réussite de l'opération. Cette agence, avec des autorités de la province, ont lancé une offre avec l'espoir d'impliquer des agences du système des Nations Unies pour la réalisation d'un projet conjoint en faveur des rapatriés dans leur zone de retour. Henri Lobondo Bokelou, Mbandaka, Radio Kapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
La question du jour porte sur la naissance de nouveaux groupes armés au Nord Kivu. Vous suivrez la réponse du colonel Félix Bass, porte-parole militaire de la MONUSCO.
Elvira Panzou pour le compte de la radio-télé La Louange. Je voulais poser ma question au colonel Bass. Après plusieurs opérations de traque des groupes armés opérant dans la partie est de la RDC, ces derniers continuent de naître. C'est le cas du groupe Protection du Peuple Hutu, PPH en sigle, qui vient de voir les jours. Alors face à cette situation, que compte faire la MONUSCO pour mettre fin définitivement aux naissances plutôt des autres forces négatives, puisque vous avez mandat de neutraliser tous les groupes rebelles?
D'abord, il faudra préciser que les efforts de neutralisation de ces groupes armés, la MONUSCO n'a jamais eu la prétention de les faire seule. Nous avons toujours travaillé en étroite coopération avec nos partenaires FRDC pour mettre un terme à ces recrudescences des activités négatives, mais aussi à la naissance de groupes armés. Ceci est un indicatif assez éloquent. Qu'est-ce que nous observons? Nous observons une forme de coalition qui traduit la détresse des groupes armés face à la pression militaire exercée aussi bien par les FRDC que par la MONUSCO. Évidemment, à l'annonce de la naissance de tels groupes armés, il est évident que tout le monde se demande « mais qu'est-ce qui se passe ?» Mais vous savez, c'est un cycle qui n'a jamais cessé de voir le jour ici en RDC. Les groupes armés s'allient à partir d'alliances d'abord qui sont contre nature, et deuxièmement, là vous voyez que ce sont des regroupements qui sont surtout orientés vers des bases tout à fait parce que quand on parle de la défense des groupes Hutus dans la province du Nord Kivu, il est évident que c'est une tendance vers une coalition pour renforcer, si vous voulez, une forme d'opposition. Mais ceci n'entame à rien du tout la détermination, aussi bien de la MONUSCO que des FRDC, à continuer de manière progressive de neutraliser l'un après l'autre tous ces groupes armés qui prennent naissance. Pour le moment, c'est des groupes qui sont encore sous une forme purement embryonnaire et qui aujourd'hui appellent toute l'attention aussi bien de la MONUSCO que des FRDC pour mettre en œuvre nos efforts communs afin de les neutraliser, et nous sommes dans ce processus-là.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Je m'appelle Annie Mikelezi Kanene, je suis mariée à M. Mpoyi Mutambai Germain, et j'ai trois enfants, tous sont des filles. Je suis médecin de formation, j'ai terminé à l'université de Kinshasa. Donc après mon diplôme de médecin, je suis allée faire un master en santé publique où je me suis spécialisée à l'option nutrition à l'université Senghor d'Alexandrie en Égypte. Et actuellement, je travaille à l'UNICEF où j'occupe la fonction d'administrateur chargé de nutrition. Depuis une année et demie. Avant l'UNICEF, j'ai travaillé au programme national des nutritions, également à l'hôpital d'Inchili. Dès que je me réveille, je m'occupe du ménage, surtout que je suis aussi une femme allaitante, je m'occupe également de mon bébé, et je donne les instructions qu'est-ce que tu dois te faire après moi. Dès que je quitte la maison, j'arrive au bureau, donc il y a des tâches déjà programmées. Je regarde qu'est-ce que j'ai à faire hier, qu'est-ce que je n'ai pas terminé, qu'est-ce que j'aurai à faire, qu'est-ce que j'aurai à faire aujourd'hui. Je priorise les tâches et je commence à travailler. Mon temps libre, je le gère à faire plus les ménages. Comme je n'ai pas le temps, je travaille. Donc, dès que j'ai un temps libre, je préfère plus travailler. Pour le sport, je ne suis pas vraiment fanatique, mais des fois, j'aime le football, surtout les matchs internationaux. Ça, je regarde la musique. Et également, ce que je regarde à la télé, c'est toutes les informations pour essayer un peu d'être à la page de culturer. Également, Radio Okapi. Je dors avec la radio allumée sur la chaîne Radio Okapi. En tout cas, Radio Okapi, c'est là où je pense qu'ils nous fournissent les informations qui sont à la page. Ce que j'aime faire, j'aime le travail, c'est ça. J'aime travailler, j'aime le bien, je n'aime pas les mensonges, j'aime la vérité. De perspective d'avenir, j'ai toujours eu des soucis pour notre pays. Donc, pour moi, j'aimerais contribuer au développement de ces pays sous forme d'une autre. C'est toujours dans les domaines du médical. Surtout que je suis à l'agence, je ne suis qu'à mon début. Dans un premier temps, je continue à l'UNICEF. On va voir ce que Dieu va nous réserver.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30 heure de Kinshasa sur Radio Capi.
Retenez dans vos carnets que le comité d'appui technique au mécanisme régional de suivi se réunira du 20 au 23 mai à Goma, dans le Nord Kivu. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Mary Robinson, sera présente à cette réunion. Ce sera pour la première fois que cette structure se réunit en dehors de Nairobi, au Kenya, où se trouve son secrétariat. Autre rendez-vous, lutte contre le VIH-Sida et les violences sexuelles, du 22 au 23 mai. Une trentaine de leaders religieux participeront à Kinshasa à un atelier d'information et d'échange. Cette formation est co-organisée par ONU-SIDA RDC, la MONUSCO et le PNMLS. À noter aussi ces dates des journées mondiales. 19 mai, journée mondiale de la santé bucco-dentaire. 21 mai, la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Et le 25 mai, deux journées, la journée mondiale de l'Afrique et la journée mondiale des enfants disparus. Fin de ce magazine présenté par Mila Kimbuni avec l'assistance technique de Guy Manzangou du côté de la régie, supervisée par Nicole Ngaka, coordonnée par Jean-Pierre Elali Coco, avec Honoré Missenga au reportage, un magazine à retrouver sur www.radiocapi.net. Contactez-nous en laissant un commentaire sous l'émission postée sur le site web de la radio, par notre adresse mail magun@radiocapi.net ou à notre numéro 082 30 76 630. À la semaine prochaine.